En ce 10 janvier, à Rencontre spirituelle, je compte vous parler des croisades, mais avant de vous parler des croisades, qui est un sujet délicat, difficile, très complexe, c'est presque une entreprise ridicule de ma part de vouloir en parler en moins d'une heure. Je voudrais vous signaler quand même que c'est la fête aujourd'hui de Saint-Guillaume, archevêque de Bourges, qui a vécu au temps des croisades, justement. C'est un prénom, vous savez, Guillaume, qui est un des plus répandus. On l'ignore ici, dans ce pays, où on ne connaît guère que le fils de Denise Bombardier, qui s'appelle Guillaume, je pense. Et c'est porté par environ 50 saints canonisés, que ce prénom. Et notre Guillaume, archevêque de Bourges, mort en 1209, était le neveu de Pierre l'Ermite, dont il sera question tout à l'heure, car c'était un des grands prédicateurs des croisades. Il a d'abord été chanoine à Soissons, puis moine, et successivement abbé de Pontivy, de Fontaine-Saint-Jean, de Chaly. Il a été nommé archevêque de Bourges en 1199, donc il n'a été là que 10 ans. C'est un cistercien qui regrettait d'avoir quitté son monastère. Et il disait, et je termine là-dessus, « Si l'on reprend vivement un homme pour les frissons que lui cause la fièvre, pensez-vous que ses reproches l'empêcheront de frissonner? » Alors il dit de même, « Prions pour les pécheurs, pour compatir à leur faiblesse plutôt que de les reprendre avec aigreur. » Oui, déjà, vers l'an 1200, un archevêque parlait comme ça. Plein de psychologie, cette psychologie contemporaine. Tout à fait. C'est pas d'aujourd'hui dans l'Église. Il y a bien d'autres saints aujourd'hui. Je vous les cite rapidement. Saint Agathon, pape Grégoire de Nice, le fameux Grégoire de Nice, et puis qui est mort à la fin du IVe siècle. Grégoire X, lui, qui était pape aussi, comme Agathon, mort en 1276, au temps des croisades. Et puis, Paul l'Ermite, un autre. Ça, c'est un véritable ermite de Montébéide, ça, qui est mort en 250. Il y a Philippe de Bourges, un autre archevêque de Bourges, comme Guillaume, dont je viens de vous parler, qui est mort, lui, en 1261. Guillaume, est mort en 1209. Et puis, il y a Pierre Orseolo, dont j'aimerais bien vous parler un jour. C'est un doge de Venise, qui est mort en 987. Un laïc, oui. Alors, passons outre et allons vers le problème difficile des croisades. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je vous en parle, c'est toujours en rapport avec cette lecture d'Isaïe de dimanche dernier. « Debout, Jérusalem, resplendis. Sur toi se lève le Seigneur et sa gloire brille sur toi. Or, Jérusalem, je vous ai bien dit, préfigure dans le texte d'Isaïe. » Préfigure l'Église. Et cette Église, eh bien, la gloire du Seigneur brille sur elle. En dépit de ces abominations dont je vais vous parler, mais vous allez voir ce que je vais vous en dire, nous n'avons pas à rougir autant qu'on pourrait de ces croisades pénibles, terribles. Je vous rappelle que le pape, récemment, nous a demandé, dans une encyclique, pape Jean-Paul II, nous a demandé de ne pas chercher à cacher les erreurs et les maladresses de l'Église de Rome. Ce sont ses paroles. Dans ses relations avec les autres églises au cours des siècles, et au nom de son Église, il en demande pardon. Et dans cette encyclique, le pape invite ses fidèles, donc chacun d'entre nous qui sommes catholiques, à mieux connaître et apprécier les richesses de foi et les richesses liturgiques des églises orthodoxes orientales, plutôt mal connues en Occident, et dont certaines, dit-il, ont la gloire d'avoir été fondées par les apôtres eux-mêmes. On les appelle désormais églises sœurs. Et on va même jusqu'à dire qu'avec l'Église de Rome, ces églises orientales constituent, et c'est ce qu'il dit, les deux poumons de l'Église du Christ. Alors, je voulais spécifier ces détails au point de départ en vous parlant de ces croisades où il est question souvent, deux fois, de passage ou d'envahissement de Constantinople, cette ville qui est au cœur qui était et qui l'est toujours symboliquement au cœur de l'orthodoxie de cette grande Église sœur. Dans les temps les plus reculés, qu'on pense aux Juifs autrefois, et aussi aux chrétiens dès le début du christianisme, eh bien, dans les temps les plus reculés, Jérusalem a été pour tout ce monde, chrétiens et juifs, un lieu de pèlerinage extrêmement important. Le zèle de ces voyageurs, de ces pèlerins, ne s'est pas refroidi quand la Palestine a été conquise par le calife Omar. Quand ça? C'est en 637, dès le début de l'islam, tout de suite, les musulmans sont arrivés et ont conquis ces territoires chrétiens. Et c'est pas à l'honneur nécessairement de l'islam, loin de là. Loin de là. Mais au Xe siècle, sous la dynastie des Fatimites, eh bien, les mauvais traitements qu'ont eu à subir les pèlerins ont trouvé un écho à Rome. Et le pape Sylvestre II a donc songé à assurer à ces pèlerins et à ces chrétiens qui vivaient là. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui vivent en Palestine, j'en ai rencontré, qui sont des chrétiens depuis 2000 ans, quoi. Comme disent certains d'entre eux, le sourire aux lèvres, peut-être que mon ancêtre a été converti par Jésus-Christ lui-même. Ils sont toujours là. Et alors, pour assurer une protection efficace, ce n'était pas facile. C'était plus dur encore sous le joug des Seldjoucides qui se sont emparés de la Palestine en 1073, cette fois-là. Et de nouveau, les papes ont repris le projet de délivrer la Terre Sainte. Il y a eu Grégoire VII qui en a eu l'initiative, mais ce fut Urbain II qui a mis le mouvement, mais qui a mis en mouvement plutôt la première croisade. J'aimerais apporter ici un détail très important. Je vous ai dit que le calife Omar a conquis cette Palestine chrétienne en 637. Et à cette époque, il y avait un saint qui était pape, là, Saint Sophron, qui était évêque, de Jérusalem. Saint Sophron. Il avait été élu patriarche de Jérusalem en 633. Donc, simplement 4 ans avant l'arrivée des musulmans. Il a vu cette ville, qui lui était si chère, tomber aux mains, comme on dit, des Sarrasins. Vous savez, les Sarrasins, c'est quoi? Ben, ce sont les Arabes, les musulmans, tous les musulmans, c'est comme ça qu'on les appelait au Moyen Âge, hein, les Sarrasins. Et alors, il voit donc ça. Et puis, il expose sa propre vie, Saint Sophron, pour venir en aide aux chrétiens dans la détresse. Et on dit dans l'immense martyrologe en 12 volumes, des choses assez pénibles. Il avait obtenu d'Omar la liberté de pratiquer la religion chrétienne sur tout le territoire de la Palestine. Mais la condition a été mal exécutée. Et Omar a poussé l'hypocrisie, imaginez, jusqu'à demander à entrer dans le temple des Juifs pour y adorer le vrai Dieu, disait-il. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il y a proféré des blasphèmes au scandale de tout le monde, Juifs et chrétiens. Alors, témoin de ces profanations et de ces sacrilèges commis à cette occasion, eh bien, Saint Sophron a protesté, au risque de sa vie, en déclarant que c'était là vraiment l'abomination de la désolation prédite par le prophète Daniel dans l'Ancien Testament. Alors, réduit à ne pouvoir que proférer des plaintes absolument stériles, eh bien, cet évêque, un saint, est finalement tombé malade. Et il est mort assez rapidement le 11 mars 639. Nous l'honorons avec les Grecs, Saint Sophron. C'est un évêque qui a perdu au fond sa ville aux mains des musulmans. Et ce fut tragique. Et alors pourquoi les chrétiens veulent-ils ravoir Jérusalem? Ben c'est justement parce que les musulmans leur créent des difficultés dans leur pèlerinage et aussi créent des difficultés aux chrétiens qui vivent là. Il faut quand même pas oublier le malheur de ces chrétiens. D'ailleurs, je poserai une question très simplement. Si des chrétiens s'étaient emparés de la Mecque, qui est le centre de la foi, la grande foi de l'islam, là où ils ont le sentiment de rencontrer Dieu de façon plus particulière et d'adorer Dieu de façon profonde, ensemble, comme des frères. Est-ce que les musulmans auraient toléré toutes sortes de mauvais traitements que les chrétiens auraient pu leur faire subir lors de leur pèlerinage à la Mecque? Eh bien non. Et je les comprends, les musulmans. Ils sont fiers. Ils ont une foi noble, fort belle. Mais grand Dieu, est-ce que nous devons tout endurer? Alors on a attribué à Pierre l'ermite l'honneur d'avoir déterminé cette entreprise de la première croisade. C'est une erreur. Pierre l'ermite ne fut que l'un des prédicateurs, l'un des plus zélés, si l'on veut. Ils ont pris leur mot d'ordre à Clermont. Pourquoi Clermont? C'est parce que le pape Urbain II y avait convoqué un concile le 18 novembre 1095. Et ce concile, qui n'a duré que 10 jours, a réuni 14 archevêques, 250 évêques, et imaginez 400 abbés. Alors, une véritable multitude de gens qui sont venus camper dans la plaine qui s'étendait en dehors des murailles de la ville de Clermont. Clermont, je crois que ça doit être le Clermont qui est à 25 kilomètres de Beauvais, car Urbain II, d'ailleurs, était un pape français, ce pape qui a convoqué ce concile. Alors, le 27 novembre, le concile terminé, le pape s'est adressé lui-même à la foule des clercs et des chevaliers. Et puis, il a exhorté cette foule à prendre les armes. Il hésitait. Mais il l'a exhorté à prendre des armes pour aller délivrer le tombeau de Jésus, le Saint-Sépulcre. Puis de délivrer aussi les chrétiens d'Orient qui étaient loin d'être très heureux sous la conduite des musulmans. Ces paroles ont soulevé l'enthousiasme des fidèles, qui au cri de « Dieu le veut » se sont précipités vers lui pour le prier de consacrer leur vœu d'aller en Palestine. L'un des premiers à faire ce vœu a été Adhémar de Monteil. C'était un évêque, l'évêque Dupuy, qui est mort à peine 2 ans plus tard, en 1098. Il s'est agenouillé devant le pape, il a pris cet engagement, et plusieurs milliers de chevaliers ont suivi son exemple, et tous ont fixé sur leur épaule une croix d'étoffe rouge, qui était désormais le signe de la croisade. Et en même temps furent déterminées les conditions dans lesquelles allait avoir lieu la guerre sainte. Oui, la première guerre sainte des chrétiens, après 1000 ans de christianisme. Il n'y avait pas de précédent. Oh, il y avait des précédents de guerre sainte, justement, dont je viens de vous parler. Pour l'islam, ils en ont fait beaucoup de guerres saintes. Mais nous, c'était la première fois. Elle était justifiée par la récupération du tombeau du Christ, et plus particulièrement le salut des chrétiens qui vivaient là, depuis 1000 ans. Alors à ceux qui prenaient la croix, eh bien l'Église remettait certaines pénitences qu'ils devaient subir après la rémission de leurs péchés. Vous savez que quand on pardonnait des péchés, souvent les prêtres demandaient qu'on fasse pénitence afin d'accroître le sentiment du regret et la décision de ne plus recommencer. Alors, des précautions aussi étaient prises contre un enthousiasme irréfléchi de cette foule énorme. Les moines ne devaient pas faire vœux sans le consentement de leur évêque ou de leur abbé. Les simples fidèles devaient prendre conseil des prêtres. Puis des réserves étaient faites pour les jeunes gens, les femmes mariées aussi. Alors pendant leur absence, mais les biens des croisés devaient être placés sous la protection de l'Église, et dans chaque diocèse, mais c'était l'évêque qui en prenait la tutelle, et il lui était enjoint de veiller à ce qu'à leur retour les croisés puissent prendre possession de leurs biens très paisiblement. Et cette législation-là, c'est assez étonnant, qui a été créée en 1095, a été la règle de toutes les croisades, et savez-vous qu'il y en a eu 7? Les dernières, c'est avec Saint-Louis, le roi. Alors, Adhémar Dupuy, dont je vous ai parlé, cet évêque, a été désigné par Urbain II, par le pape, pour être le légat du pape, du Saint-Siège, et son représentant à la croisade. Alors là, la date du 15 août 1096 a été fixée pour le départ. Et Constantinople, le cœur même de cette grande église sœur, qui venait de se séparer de nous, on venait de se séparer, mais nous étions encore très près les uns des autres, comme nous le sommes toujours d'ailleurs au fond de nos cœurs. Alors Constantinople a été choisie comme point de concentration de tous les croisés. Alors des bandes populaires, entraînées par une foi souvent bien aveugles, sont partis à la suite de ce prédicateur Pierre l'Ermite. Ils ont presque totalement été massacrés sur les rives de la Turquie, l'Asie mineure. 4 armées principales étaient conduites par Godefroy de Bouillon, qui a été donc un homme qui était tout à fait différent de Saint Sophrone, qui lui, je vous ai dit, en 639, 637, avait accepté la conquête de Jérusalem très calmement. Godefroy de Bouillon, lui, était un duc de Basse-Lorraine, avec son frère Baudouin, puis Hugues de Vermandois, Robert Courteheuse, duc de Normandie, Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse, Bohémond et Tancrède, chef de Normandie de l'Italie du Sud. Alors, tous ces gens-là, avec leur armée, ont traversé Constantinople sans toucher à la ville. Ils ont pénétré en Asie, et pendant que Tancrède lui s'emparait des places de la Cilicie, là, alors Baudouin, appelé par les Arméniens, a franchi l'Euphrate. C'était en octobre 1097. Il a occupé tout le pays jusqu'à Édesse. Et maître de la ville d'Édesse, où avait été conservé le Saint-Suaire pendant des années, mais il a fondé la première principauté latine qui ait existé en Orient. C'est ridicule, au fond. Et Bohémond et Raymond de Saint-Gilles se sont emparés d'Antioche en Syrie en 1098. Et là, l'année suivante, Godefroy de Bouillon, le comte Raymond, Tancrède et Robert Courteheuse sont entrés dans Jérusalem. Et là, c'est une catastrophe. C'est un des moments les plus terribles de notre histoire, de l'histoire du christianisme et de l'histoire de l'Église. Ça me fait mal de vous dire que là a commencé un affreux massacre de tous les habitants sans distinction de sexe ni d'âge. Et tandis que Tancrède pillait la mosquée d'Omar, d'un commun accord, les croisés ont élu pour prince Godefroy de Bouillon, qui a refusé le titre de roi et s'est contenté du titre d'avoué du Saint-Sépulcre. Et Godefroy est mort l'année suivante. Sa couronne a échu à son frère Baudouin d'Édesse. Les deux patriarcats latins furent fondés à Jérusalem et à Antioche. Cette idée d'établir des patriarcats latins plutôt que de respecter les patriarcats de l'Église. Évidemment, l'Église d'Orient s'était séparée. C'est ça le malheur. En tous les cas, c'était le succès, vaille que vaille, de cette première croisade, dans le but supposément spirituel, mais vraiment, au fond du cœur, ils avaient un but spirituel, de reconquérir Jérusalem et d'aider les chrétiens. Mais les vainqueurs ont maintenu difficilement leur conquête et la royauté de Jérusalem est tombée en, comme on dit dans les vieux textes, elle est tombée en quenouille. Ça s'est tout défait. Et sous la régence qu'exerçait la reine Mélisande au nom de son fils mineur Baudouin III, bien là, le sultan musulman Zengi de Mossoul s'est emparé d'Édesse. Alors aussitôt, à la voix du pape Eugène III, qui était un Italien, qui a créé d'ailleurs le Sacré Collège pour l'élection des papes, eh bien, s'est organisé en Occident une nouvelle croisade. Et là, en France, qui l'a prêché? Vous vous souvenez, hein, c'est Saint Bernard de Clairvaux, l'abbé de Clairvaux, cistercien, qui a enrôlé des croisés par milliers à la suite du roi Louis VII de France, là. Ils ont tenu une assemblée à Vézelay. On voit des peintures de ça, la grande église, la Madeleine à Vézelay. Sur les pentes, on voit les foules des croisés dans des peintures. C'était le 31 mars 1146, donc un bon bout de temps plus tard, 50 ans plus tard. Alors, il continue sa campagne sur les bords du Rhin, donc vers l'est, et gagne à son projet l'empereur Conrad III d'Allemagne, dont je vous ai déjà parlé, puis les chevaliers allemands. Alors, Louis VII de France et Conrad d'Allemagne partent, chacun avec une armée de combien? 70 000 hommes. C'est énorme, hein? 140 000 hommes. Mais ces armées étaient accompagnées de nombreux pèlerins qui n'avaient aucune intention de combattre et qui ont été un embarras, une cause d'insuccès. Ils se voulaient pèlerins en même temps que les autres combattaient. Les gens perdaient un peu la tête. Et Louis VII, par exemple, avait amené la reine Aliénor de Guyenne. Il s'en est repenti, amené sa femme là-dedans. C'était invraisemblable. Alors, il y a eu des péripéties absolument cruelles. Il y a eu des pertes d'hommes. C'était effrayant. Les deux princes se sont rejoints heureusement à Jérusalem, les deux rois. Et au mois de juillet 1148, donc à peu près 2 ans, 3 ans plus tard, Ils ont tenté un assaut de Damas en Syrie. Leur attaque a échoué. Ils ne pouvaient plus songer à délivrer Édesse en Turquie. Et découragé, Conrad est retourné à Constantinople et de là en Allemagne. Quant au roi français Louis VII, il est resté à Jérusalem jusqu'au fait de Pâques 1149 l'année suivante. Il est revenu en France que sur les instances de Suger, le fameux Suger qui était son principal ministre et qui était abbé de Saint-Denis, un bénédictin éminent. Et alors, l'échec de la croisade, de cette deuxième croisade, a causé un grand mécontentement en Occident. Saint Bernard en a été tenu responsable, l'abbé de Clairvaux. Et en 1150, l'année suivante, il a voulu, avec l'appui de l'abbé Suger, l'abbé de Saint-Denis, c'est à Paris, Saint-Denis, voulu organiser une nouvelle croisade. Et ses paroles n'ont trouvé qu'un faible écho. Et sa santé, d'ailleurs, lui a fait renoncer à son dessein. Mais là, l'insuccès de la seconde croisade fut un encouragement pour les musulmans. Et Nour el-Din, successeur de Zengi de Mossoul, a causé au roi de Jérusalem les plus grands embarras. La couronne de Jérusalem est passée successivement de Baudouin III, Baudouin IV à Baudouin V et à Guy de Lusignan. C'était le micmac, comme on dit de façon vulgaire. L'autorité sur le royaume était très mal organisée. Alors, il y a eu un adversaire qui est arrivé, et c'est le grand Saladin. Noble musulman, mais guerrier difficile, qui était devenu souverain d'Égypte en 1171. Il était aussi maître du califat de Damas, et d'immenses territoires, ce Saladin. Ce grand musulman. Il avait une puissance énorme, exorbitante. Il faisait tout craindre pour les pauvres chrétiens qui se sentaient bien faibles. Alors, pour comble de malheur, le comte Raymond de Tripoli, irrité de l'élévation de Guy de Lusignan sur le trône et qu'il enviait, a conclu pour se venger un traité avec ce Saladin. Et la bataille décisive a été livrée à Athine, près de Tibériade. Si vous êtes déjà allé en Terre Sainte, vous êtes allé à Tibériade. C'est cette ville qui est entièrement juive aujourd'hui, qui était profondément chrétienne il n'y a pas si longtemps, qui est sur le lac de Tibériade, pas loin de Capharnaüm, à 4 kilomètres. Il n'y a plus de chrétiens là. Les juifs ont tout pris. C'est dommage, c'est aujourd'hui, ça. Pauvre Terre Sainte, ce qu'elle a eu à souffrir. Et Saladin, resté vainqueur, a conquis en peu de temps Jérusalem et la plupart des villes du royaume. Et à la première nouvelle de la chute de Jérusalem, là, tout l'Occident, toute l'Europe s'est émue de ça. Trois armées composées surtout d'Allemands, de Français et d'Anglais, qui avaient à leur tête leurs souverains respectifs, se sont mis en route pour l'Orient. Et cette troisième croisade n'a pas répondu à l'attente générale et l'armée allemande, partie au printemps de 1189, comptait environ 100 000 hommes. C'est incroyable. Elle a péri presque tout entière en Turquie, en Asie mineure, où l'attendaient, outre la famine et la maladie, les soldats turcs. Le chef de l'expédition, c'était l'empereur Frédéric Barberousse, qui est mort lui-même noyé dans les eaux de Calicadnus en Cilicie en 1190. Et à peine 2 000 hommes, oui, seulement 2 000 hommes, sont arrivés devant la ville d'Acre, où les chrétiens et les sarrasins s'affrontaient. Et encore, ce nombre fut-il réduit par la dysenterie. Eh oui. Et parmi les victimes, il y a le duc Frédéric de Souabe, qui avait pris le commandement après la mort de son père, et qui fut emporté au commandement de 1191. Ça a été terrible. Le succès de la croisade, en somme, s'est borné à cette conquête de la ville d'Acre, qui a été prise en 1191 durant l'été, et à la conquête de Chypre que les Anglais avaient occupée en passant. Les Anglais étaient catholiques, évidemment, à l'époque. L'envie et la jalousie empêchèrent tout concert entre les princes de l'Occident, tous ces rois. Guy de Lusignan ne s'entendait pas mieux avec Conrad de Montferrat, prince de Tyr, et tous ces gens se disputaient. En somme, ça a été la catastrophe, et alors, finalement, ils ont eu la liberté de faire un pèlerinage un peu. Il y a eu un armistice de 3 ans. C'est à quoi a abouti la troisième croisade. Et nous verrons ce qui est arrivé à la quatrième croisade. Quatrième croisade qui fut une catastrophe épouvantable, qui est une des plus grandes tâches dans l'histoire de l'Église. Nous sommes rendus à la quatrième croisade, qui est une honte ineffaçable. L'initiative de cette croisade est essentiellement due à un pape, Innocent III. Mais c'est pas un mauvais pape. Non, non, non. Il y a eu une déviation dans cette croisade, et c'est le terme qu'a utilisé Innocent III lui-même quand il a appris la prise sanglante de la ville de Constantinople par les chrétiens d'Occident. Cette déviation ne correspond absolument pas aux objectifs habituels de ce qu'on appelle la croisade dans le sens générique du terme de toutes ces sept croisades. Cette quatrième croisade est une croisade fratricide à l'égard d'autres chrétiens. C'est une des horreurs de l'histoire. On n'en demandera jamais assez pardon à nos frères orthodoxes. C'est aussi une croisade économique, au fond. Le lucre de la part de gens qui n'étaient pas chrétiens dans l'âme, loin de là. Ils étaient peut-être baptisés, mais ils n'avaient rien de plus. Innocent III, désirant accroître son autorité morale sur les souverains occidentaux, a renforcé l'unité de la chrétienté. Et il voulait rétablir les relations avec les chrétiens orientaux, les orthodoxes. Il avait tenté, lors des préparatifs de la croisade, de débarrasser toute cette expédition de tout ce qu'on pourrait appeler une contrainte politique. Et il avait établi un impôt sur les revenus ecclésiastiques d'Occident. Prendre de l'argent dans les monastères, dans les diocèses, etc. Et puis les souverains, les rois, les princes, ne participeraient pas cette fois-ci, afin d'éviter qu'il y ait de la politique là-dedans. Alors, seuls les barons, les seigneurs, étaient les cadres de la croisade, et s'étaient dirigés vers la Palestine, vers Jérusalem, qui avait été reprise par les musulmans en 1187. Et là, ils ont fait une espèce d'armada, une flotte qui partait de Venise, qui devait transporter les troupes. Venise, évidemment, dans le nord de l'Italie, je vous explique, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, là, et c'est à droite, sur l'Adriatique, et sur cette mer Adriatique qui longe, justement, la Yougoslavie, dont on parle beaucoup, eh bien, ils pouvaient descendre vers la Terre Sainte, la Méditerranée. Et là, cette flotte partait de Venise, devait transporter donc les troupes en Égypte, moyennant un fort paiement. Hein. Et puis, l'armée croisée est donc arrivée à Zara, car ils avaient dû céder à un chantage de la part de Venise. Innocent III déclarait, « Au lieu de gagner la terre promise, vous avez eu soif du sang de vos frères. » Satan, le séducteur universel, vous a séduit. Le pape n'y allait pas de mon mort pour condamner ces catholiques abjects. Et la réaction pontificale est rapide. Tous ces croisés sont excommuniés. Il les excommunie tellement il est fâché contre eux. Et quand Innocent III lève l'excommunication, il espère que les croisés ne vont pas recommencer. Pourtant, Alexis Ange lance un appel aux croisés en faveur de son père qui a été détrôné de Byzance, moyennant des versements élevés, la contribution de l'Empire d'Orient à la poursuite de la croisade et même l'union des églises suffit pour exciter l'esprit de lucre et d'aventure de ces sacripants de Vénitiens, puis ces croisés qui n'en sont finalement pas. Ils auraient pu arracher leur croix rouge et l'acheter par terre. Il l'aurait moins profané en l'achetant par terre qu'en la portant sur leur épaule. Et la première prise de cette ville a rétabli Isaac II sur le trône. C'est toute une question de commerce, finalement. C'est toute une question d'argent. Au plus fort, la poche. Hein? Alors ce second assaut se termine dans le sang et le pillage. Et les lieux saints sont profanés. Les lieux saints sont profanés, oui, c'est terrible. la population est égorgée. C'est effrayant. Innocent III, le pape, ne se gêne pas. Il dit, « Vous avez dévié et fait dévier l'armée chrétienne de la bonne route dans la mauvaise. Ces défenseurs du Christ, qui ne devaient tourner leur glaive que contre les infidèles, les musulmans, se sont baignés dans le sang chrétien. Ils n'ont épargné ni la religion, ni l'âge, ni le sexe. » Ce sont les paroles mêmes, elles sont authentiques, les paroles du pape, qui en a pleuré. En partageant cet empire byzantin, l'empire de Constantinople, les croisés ont depuis anéanti le dernier rempart de la chrétienté contre les assauts de l'islam, en tuant, pour ainsi dire, cette grande église jusqu'à un certain point. Ils permettaient aux musulmans d'entrer. Et aujourd'hui, bien, Constantinople, qui s'appelle Istanbul, est une ville, pour ainsi dire, uniquement musulmane. Les Turcs y dominent partout. Et le patriarche de Constantinople, qui vit au Fanar à Istanbul, comme dans un petit Vatican où je suis allé, mais réduit à une grande pauvreté, une grande simplicité. Et cet homme admirable qui dirige les destinées de cette grande église d'Orient a rencontré le pape, proteste parfois sur certains abus. Mais je crois qu'au fond de son cœur, comme le patriarche Athénagoras, que j'ai eu l'occasion d'embrasser, souhaite fortement l'union. Enfin, l'établissement de l'Église latine, l'Église catholique romaine, en territoire grec, n'a pas eu les résultats escomptés. On ne pouvait restaurer l'unité des chrétiens sur la base de la violence, c'est évident. Quelle folie! En somme, la quatrième croisade n'a pas été la seule bavure de l'ère des croisades, mais elle a mis particulièrement en lumière les difficultés qu'a l'Église de contrôler les chrétiens soumis à de fortes tentations durant ces expéditions. On l'a vu au cours de la dernière guerre. Nos propres soldats catholiques québécois ont fait des horreurs dans certaines régions comme en Hollande ou ailleurs, au moins que les croisés. Mais je sais, de source sûre, qu'il y a eu des choses pénibles que nos soldats, nos oncles, nos cousins, nos frères ont faites. Oui, terrible. Pas tous, évidemment. Mais c'est terrible. Alors cet épisode sanglant a depuis contribué à accroître toute la dispute entre catholiques et orthodoxes. Mais heureusement, Jean-Paul II nous a bien dit qu'il fallait demander pardon. Il vient de nous le dire encore. Alors comment guérir toutes ces plaies de l'histoire, quelle que soit la part des responsabilités engagées dans tous ces épisodes? Le rôle d'un chrétien objectif, c'est de les exposer. En se frappant à la poitrine, en demandant pardon à Dieu, en demandant pardon à nos frères. La chrétienté et l'Église sont atteintes dans ces drames. Et ici joue cette espèce de complémentarité puis la liaison qui unisse tous les membres de l'Église. Tout chrétien se doit d'être le témoin du Christ. Il engage une part de la responsabilité de l'Église. Ses actes importent pour les non-chrétiens. Ses actes contribuent à alourdir sur son mauvais le poids du péché. Ils sont autant d'obstacles à la progression de la parole du Christ qui libère les cœurs. Ces plaies de l'histoire, mais on doit bien les accepter comme des épreuves. On doit en prendre la responsabilité, tant morale que concrète, par fidélité au Christ et à l'Église, à nous tous, individuellement, mais collectivement, par la prière et la pénitence. Nous devons participer à la rédemption de l'humanité, mais rien, sauf la grâce et la conformité au Christ, ne peut nous mettre à l'abri de telles erreurs abominables. C'est en vivant l'Évangile que nous pouvons vraiment changer les choses. En somme, cette quatrième croisade était un désastre. Ça a causé dans tout l'Occident une profonde douleur. La faute en incombait aux princes d'Occident, plus particulièrement à l'empereur Frédéric II, qui après s'être posé en soldat de l'Église avait trahi ses engagements. Je vous fais grâce de tous les détails. Mais de toute façon, en 1229, une dizaine d'années plus tard, Frédéric Duce même a fait son entrée dans la ville sainte. Et le lendemain, à Jérusalem, il s'est présenté dans la basilique du Saint-Sépulcre, revêtu du costume impérial, suivi de ses chevaliers. Une couronne d'or était déposée sur l'autel et sans aucune cérémonie religieuse, Frédéric la prit, se la plaça sur la tête et se proclama lui-même roi de Jérusalem. Il tint ensuite sa cour et après un festin auquel assistèrent les chefs musulmans, il alla ouvrir la première tranchée pour la reconstruction des remparts. C'était la cinquième croisade. Et ainsi triomphait sa politique. Et de retour en Europe, Frédéric II s'est réconcilié avec le pape Grégoire IX, qui l'avait excommunié. Et puis, dans une entrevue, dans la ville natale du pape, à Anagni, le pape l'a relevé de son excommunication et l'a reconnu comme roi de Jérusalem. Mais là, il y a une sixième croisade. Les Mongols se précipitaient en avalanche à ce moment-là. À l'extrême-orient, très, très, très loin, ils s'avançaient vers l'Europe, les Mongols. Tout le monde, et même les Turcs musulmans, fuyaient à leur approche. Il y avait une bande de 10 000 Khwarizmiens qui avaient des guirpilles devant eux. Ils sont venus se mettre au service du Soudan d'Égypte. Le Soudan d'Égypte, c'est au fond le lieutenant, un lieutenant. Et la trêve qui avait été consentie entre Frédéric II puis ce Soudan d'Égypte avait pris fin. Au mois de septembre 1244, les alliés du Soudan se sont emparés sans difficulté de Jérusalem. Encore Jérusalem qui tombe aux mains des musulmans. Et tout le bénéfice de la cinquième croisade était perdu. Alors, c'est là qu'entrent en jeu les deux croisades de Saint-Louis, si on peut dire. Les deux croisades de Louis IX ont joué un rôle capital dans la formation de sa personnalité, puis dans la gestion du royaume. La durée de l'absence du roi, c'était 6 ans lors de la septième croisade. Ça contribuait à la séparation, si on peut dire, entre le pouvoir et la personne royale, et donc à la formation de l'idée d'État. Ça offert au roi Louis une expérience extrême, faite de contact direct avec les hommes, une expérience aussi de solitude puis d'épreuve. On sait l'importance de l'esprit de la croisade, j'essaie de vous la faire comprendre, l'esprit de croisade au Moyen Âge. Il s'agit à la fois, je vous le rappelle, d'un service qui est dû à Dieu, et aussi d'une œuvre de pénitence et de rachat. Et d'appui à la prédication d'Urbain II au tout début des croisades en 1095, les papes n'ont cessé de promouvoir et d'institutionnaliser la volonté chrétienne là, de libérer la Terre Sainte de l'emprise des musulmans. La croisade entre dans un système d'échange entre les fidèles et l'Église, entre les puissants, aussi, des échanges judiciaires, des politiques et fiscaux, toutes sortes de choses. Mais on ne saurait la réduire à ce rôle-là. Jusqu'au XIIIe siècle, la croisade a produit une fermentation puissante. Ça a condensé les rêveries millénaristes. Saint Louis ne fut pas le premier souverain français à se croiser. Il y avait eu Louis VII, je vous l'ai dit. Il a participé à la deuxième croisade. Il y a eu Philippe Auguste à la troisième. Mais lui seul, Saint-Louis, a pris l'initiative et la responsabilité exclusive de nouveau départ, sans répondre à un appel du pape. Il voulait pas aussi paraître mieux que d'autres rois. Les choix de Saint-Louis, l'Égypte, Tunis, s'expliquent à la fois par la situation qui était faite en Terre Sainte, et surtout par les rêves missionnaires du roi. Il voulait convertir les musulmans. Alors, les trois premières croisades avaient créé un réseau territorial chrétien en Orient. Bon, il y avait le royaume de Jérusalem, la principauté d'Antioche, il y avait les comtés de Tripoli et d'Édesse. C'était toujours menacé puis repris par les Turcs et les Arabes. Depuis la prise de Jérusalem par Saladin, dont je vous ai parlé en 1187, puis l'horreur de la quatrième croisade dont je viens de vous parler, qui aboutit à la création de l'Empire latin de Constantinople. Mais les attaques chrétiennes tentent à se développer sur les marges de la Terre Sainte. Et au cours de la cinquième croisade, l'action de Jean de Brienne préfigure celle de Louis, de Saint-Louis. Alors qu'est-ce qu'il fait, Saint-Louis? Il veut être un missionnaire. Il s'agit de convertir les grands princes islamiques aux païens, plus que de conquérir des terres. Et ainsi, de Chypre, le roi, Saint-Louis, envoie André de Longjumeau, un dominicain et grand voyageur, qui est muni d'une tente chapelle imaginée, qui est décorée de scènes de la vie du Christ, au fond de l'Asie, auprès du grand Khan des Mongols. Ce souci de conversion explique les tactiques désastreuses du roi Saint-Louis, qui veut rencontrer les souverains en leur capitale. Il veut aller au Caire, à Tunis. Et de même, la décision de rester en Terre Sainte relève à la fois d'une espèce de... Vous savez, l'honneur chevaleresque, dans ce temps-là, c'était très important. Alors, il était habité par ça, Saint-Louis. Puis, il voulait aussi obtenir la libération de ses compagnons, parce que les musulmans avaient comme esclaves de nombreux chrétiens. Puis, il y avait aussi l'esprit pénitentiel. Saint-Louis participe lui-même aux travaux. Il veut faire pénitence. Et en effet, Louis a ressenti l'échec d'Égypte comme une punition divine. Pour lui, ça sanctionnait les péchés des croisés, puis les siens aussi. Alors, Louis a alors vécu de longues années parmi les chevaliers légers et indisciplinés. D'ailleurs, il suffit de lire sa vie écrite par Joinville à l'époque, que le roi s'est violemment indigné de la présence de prostituées autour de son armée, puis de la pratique du jeu, puis du blasphème. C'est pas d'aujourd'hui que les soldats font des choses étranges, comme on en a vu à la télévision au cours de la dernière année. On tient là une source de l'entreprise de moralisation du royaume, après 1254. Et le roi Saint-Louis a aussi observé que la caste des barons et des chevaliers se laisse souvent traîner par la gloriole puis l'intérêt particulier. Alors sa volonté de dessaisir les seigneurs de l'exercice de la justice et de l'administration s'en est trouvée renforcée. Alors entre le vœu de 1244 puis la mort en 1270 de Saint-Louis, l'action de ce roi se perçoit comme l'envers et l'endroit de la croisade. Il fait de grandes choses, mais ne les réussit pas toutes. Et ça devient bien pénible. Pendant près de 2 siècles, donc, l'Europe occidentale a regardé vers l'Est, y envoyé des forces vives. C'est un phénomène original et les caractéristiques d'une société dont les structures mentales n'ont rien à voir avec les nôtres. Il s'agit de faire son salut, d'obtenir les indulgences. Tout ça, c'est plus important que la vie elle-même. C'était la conception qu'on avait à l'époque. C'est pas facile à comprendre. Mais pourtant, elle existait encore il n'y a pas si longtemps, puis je crains qu'elle n'existe encore chez beaucoup de catholiques. Et la défense des lieux saints, vers lesquels s'acheminent les pèlerins depuis les premiers temps de l'Église, la défense des pèlerins eux-mêmes, apparaît comme un devoir pour tous les chrétiens. Mais en réalité, cette raison a été principalement invoquée lors des prédications des croisades. Elle recouvre une réalité incontestable lors des premières et des dernières expéditions. Il y en eut de moins avouables, je vous l'ai dit, qui ont été condamnés par la papauté. Je vous l'ai dit aussi, Innocent III l'a condamné vertement. L'Église ne pouvait pas toujours endiguer le flot des intérêts et des passions. On parle de mécanisme, ou bien d'une espèce de processus de la croisade. Bon, d'accord, il y a des comportements types qui sont repérables. L'organisation de la croisade suppose d'abord prédication, préparation des éléments militaires, et un déroulement des opérations qui se répète globalement pour chaque expédition, mais le trait commun qui définit le mieux cette chrétienté sur le pied de guerre. Quelle horreur, une chrétienté sur un pied de guerre. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'était fait comme ça. C'est bien cette expatriation. Il s'expatrie. Cette ouverture sur un monde mal connu aussi. Une mobilisation spirituelle qui fonde ces grands déplacements de population. Alors, les croisés font un vœu. Ils veulent risquer leur vie pour le Christ. Ils veulent répondre à la possibilité d'obtenir des indulgences. Mais aussi, ils veulent avoir des avantages matériels. Comme la protection que l'Église assurait sur la famille et les biens du croisé quand ils étaient partis. Et ça leur a été accordé. Mais la réalité de la croisade est multiple. À côté des 8 grandes croisades, existèrent de petits groupes de pèlerins qui accomplissaient en dehors des grandes expéditions officielles leur vue de croisade. Et sous le nom de croisade, il y a eu des entreprises militaires, croisade des Albigeois, croisade du Nord. Dans un cadre européen, ça s'est tourné contre les hérétiques et les païens, mais l'idée de croisade a persisté jusqu'au 16e et 17e siècle, saviez-vous ça? Mais le phénomène de la croisade tire son caractère particulier du temps médiéval dans lequel il s'est épanoui. C'est le Moyen Âge. Même s'il faut replacer les croisades dans leur contexte, bien, il est bien insuffisant de se limiter à vouloir tout justifier ça par la mentalité de l'époque. Moi, je pense bien que les croisades posent un problème réel. Comment un tel élan mystique a-t-il pu aboutir à des expéditions où est né un appétit de conquête, un goût du profit? Comment ça se fait? La croisade, hein, c'est la riposte de la chrétienté qui se tient solidaire à une agression dont elle pense avoir été l'objet de la part des musulmans. Depuis le 7e siècle, les musulmans avaient chassé la croix d'une moitié du monde connu d'alors. Au seuil du 11e siècle, le sultan Hakim avait saccagé les lieux saints chrétiens, jusque-là respectés par les musulmans. Au premier signe de faiblesse de l'islam, la chrétienté occidentale, en plein renouveau, c'est là qu'elle s'est ébranlée pour reconquérir les positions perdues et libérer le tombeau du Christ et libérer les chrétiens. Est-ce que c'est un mal? Là encore, on rencontre l'équivoque. L'Église doit-elle être toujours enveloppée de la paix la plus totale? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que les chrétiens doivent faire? Si l'Église, comme société spirituelle, n'a pas à se défendre, sinon par les armes de la conviction, la chrétienté, elle, concrètement, là, doit-elle toujours accepter d'être la victime des forces qui la menacent? Est-ce que devant un Hitler, on doit laisser Hitler envahir et saccager tous les Juifs sur notre territoire? Est-ce qu'on doit le laisser jeter dans des camps de concentration tous les gens qui prêchent la liberté? Qu'est-ce qu'on doit faire? Le saint Sophron, dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'évêque de Jérusalem, qui est mort en 639, lui, il a livré la ville sainte de Jérusalem aux musulmans en 636. Il ne pouvait ni ne voulait la défendre. Et pourtant, Godefroy de Bouillon aussi, dont je vous ai parlé, l'a reconquis. Il a reconquis Jérusalem au nom du Christ. Alors, il est bien difficile de décider si l'un avait tout à fait raison et l'autre tout à fait tort. Hein? L'une et l'autre position ont entraîné des deuils et des ruines. Moi, je crois qu'on doit se garder d'approuver systématiquement le comportement des croisés, c'est sûr, c'est évident, je vous l'ai dit bien des fois. La croisade pour rester dans sa première orientation d'une action spirituelle, exiger des saints. Et si elle en a connu, comme Saint-Louis, dont je vous ai parlé le 25 août dernier, notamment, elle a aussi comporté des hommes cupides, violents et débauchés. Mais est-ce qu'ils auraient été moins débauchés s'ils étaient restés en Occident? Ces faux chrétiens débauchés, voleurs, cruels, qu'ont-ils de chrétiens? Rien, finalement. Saint François, dont je vous ai parlé le 4 octobre, Saint François d'Assise, il partit en Orient pour convertir le sultan musulman. Il reste un exemple de l'idéal chrétien qui ne put se satisfaire complètement de la violence mise au service de la croix. La violence mise au service de la croix. Que c'est dur et difficile. L'échec de son entreprise à Saint-François nous en fait mesurer toutes les limites. Dans un monde violent, où toute position cédée est interprétée comme un signe de lâcheté, c'est interprété aussi comme l'encouragement à de nouvelles violences, est-ce que certaines réactions ne sont pas préférables à la passivité? Que devons-nous faire pour les chrétiens du sud du Soudan, qui souffrent à l'heure où je vous parle, de 1000 souffrances? Khartoum, la capitale du Soudan, où sont des musulmans? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire appel au cœur de nos frères musulmans. J'en ai connu des musulmans au cœur très tendre, très bon. J'ai voyagé en pays musulman. J'ai été reçu si aimablement et si gentiment. Grand Dieu, il y a des musulmans merveilleux. Faisons appel à ces gens pour qu'ils protestent contre ce qui se passe au Soudan et ailleurs, au Pakistan, en Arabie Saoudite. Partout où on ne respecte pas les chrétiens. C'est dommage. Et quant à nous, tendons notre main à nos frères musulmans. Respectons en eux la grande foi qu'ils ont. Nous avons aussi, nous, une très grande foi. Nous sommes des frères.